Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu tout-puissant. Mais tu es aussi ce Dieu qui, malgré le fait qu'il habite dans les lieux très hauts, il se tient aussi tout juste à nos côtés. Il n'a pas abandonné ses enfants.
Amen.
Nous ne sommes pas perdus et errants dans ce monde. Chaque jour, tu nous parles d'une manière ou d'une autre, à travers ta parole.
Amen.
Aujourd'hui, tu as désigné un enfant, ton serviteur,
Alléluia.
Afin qu'il puisse nous communiquer des conseils, des directives, des corrections.
Oh,
Père, nous voulons être attentifs à tout ce que tu auras à nous dire.
Alléluia.
Dispose notre cœur à recevoir.
Oui.
Dispose notre oreille. Que rien ne puisse nous priver
Alléluia.
Du message que tu as pour chacun d'entre nous.
Amen.
Et que ton serviteur puisse être habité de ton esprit et ainsi parler avec toute la liberté que tu lui donnes.
Oh,
Père, merci pour ta parole. Amen.
Amen.
Il a dit bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir là, dans ce lieu de culte, et vous, chacun de vous, donc derrière votre écran. Mais nous sommes tous devant la face de Dieu et je prie pour que ce peuple soit le peuple qui recherche Dieu. Amen. Le peuple qui recherche la face de Dieu, qui cherche à glorifier Dieu dans tous les aspects de nos vies. Amen. Alors, je vais partager la parole de Dieu en me basant sur un texte que nous découvrons, que nous redécouvrons. Et on peut dire des amens. Je dis ça parce que nous avons commencé depuis quelques semaines à méditer sur Josué. Et donc, je bénis Dieu pour tous ceux qui relèvent ce défi-là. Je sais que certains arrivent à tenir les méditations, hein, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu en retard. Ils nous l'ont avoué un petit peu, hein, d'accord? La grâce est sur toi. Tu vas pouvoir te rattraper. Et puis, il y a de ceux qui sont en avance parce que, tout simplement, il y a quelqu'un qui devait envoyer les méditations et qui ne l'aura pas envoyé à temps, n'est-ce pas? Voilà, voilà, cette personne, voilà. Hein, on prie pour elle. Voilà. J'aimerais qu'on puisse se concentrer aujourd'hui sur Josué, chapitre 3. Nous ne pouvons pas étudier tous les textes de Josué. Il y a tellement une bonne richesse. Un texte qui nous interpelle, un texte qui nous bouscule aussi, n'est-ce pas? Mais un texte qui nous parle de quelque chose de très précieux, qui nous parle d'un héritage. Et j'aimerais te dire ce matin que ce texte nous parle d'une préparation pour une traversée. Préparation pour une traversée. Et ce texte nous donne des conditions spirituelles pour rentrer dans notre héritage. Conditions spirituelles pour rentrer dans notre héritage. Mais de quel héritage s'agit-il? C'est ça. Donc, nous sommes dit qui ça nous a parlé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'héritage dont il s'agit ici dans l'Ancien Testament, donc dans le texte de Josué, dans tout ce livre de Josué, on sait qu'il s'agit du peuple d'Israël qui est au bord du pays promis. On leur a parlé du pays promis depuis la promesse qui a été faite à Abraham dans Genèse chapitre 12. Et dans toute cette promesse, il y avait le pays promis. Canaan qui était promis, c'est l'héritage des Israélites. C'est la terre promise à leurs ancêtres. C'est la terre donnée par Dieu, le Dieu avec lequel ils ont fait une alliance. C'est la destinée, c'est la direction qu'ils devaient prendre, c'est la direction pour la vie, l'objectif à atteindre. C'était le sens de leur existence. Le jour où ils puissent être dans le pays promis. Et la Bible nous dit qu'il s'agit du pays où coulait le lait et le miel. Une manière de dire, alors bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, ce sont des images, mais une manière de dire que ce pays était riche en beaucoup de bonnes choses pour eux. Mais c'est une terre magnifique Et qu'Israël devait prendre possession, de quelle manière? Par la guerre. Et on va voir de quelle manière. Par la guerre, mais de quelle guerre s'agit-il? Et très clairement, ce pays parle aussi, quand on regarde, vous savez, toute la Bible, c'est une seule chose. Hein. Toute la Bible parle d'un seul message en réalité. Hein. Et toute la Bible, et j'aime bien un pasteur qui dit que tout a toujours rapport avec Jésus. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, beaucoup voient Jésus. Et dans les méditations que je vous ai données, vous voyez, je vois qu'il y a certains qui suivent bien les méditations, vous voyez que j'essaye sans cesse de faire ce rapport à Jésus. Parce que tout ce qui a concerné nous, les nous qui lisons l'Ancien Testament, c'est Jésus. OK? On va, dans quelques semaines, on aura un temps d'étude biblique le jeudi soir. Donc, on termine l'étude de Philémon avec le pasteur Hans Peter. Et le jeudi d'après, nous prenons un temps, même s'il y aurait du bail en l'aide, nous disons, puisqu'il y a le couvre-feu, mais par la grâce de Dieu, bon, on verra. Hein, mais on prendra un temps pour pouvoir revenir sur ça et voir Jésus à travers Josué. Mais jeudi, nous concentrons-nous en les Josué chapitre 3. Et cet héritage dont il s'agit ici, c'est le salut de Jésus-Christ par avance, le pays promis. C'est une anticipation aussi de la nouvelle terre, ceux qui sont prévus pour nous. Alléluia! Pour tous ceux qui ont fait le choix d'appartenir au Seigneur, qui se sont mis à part, qui ont fait un choix clair avec Dieu. Et très clairement, quand on lit Hébreux chapitre 4, le verset 8, on parle de Josué, et on parle de ce pays promis, et on parle de ce pays promis comme étant le repos. Et il y a un petit un chanteur chrétien qui parle de repos, il parle du repos dans la musique, il dit, mais c'est pas promis, attention. Le repos, c'est le lieu où nous sommes connectés avec Dieu, c'est le lieu d'une communion entière, parfaite, parce que nous sommes fatigués par le péché, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de ce repos en Dieu. Et ce repos, il commence ici sur terre et il se poursuivra dans l'éternité. Amen. Alors, ce pays représente un héritage et c'est notre héritage céleste. Et nous savons que Canaan sera envahi par la mentalité du royaume de Dieu à travers le peuple de Dieu. Et nous pouvons dire aussi que le jour où nous choisissons d'appartenir au Seigneur, c'est ce royaume de Dieu qui vient dans nos vies par sa sainteté, par son règne, par son autorité et qui vient pleinement nous habiter. C'est ce que l'on prie, n'est-ce pas, dans le Notre Père, que ce Seigneur vienne. Et ce pays merveilleux, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a un combat à mener pour en prendre possession. Et c'est ça le sens de la vie chrétienne. Il y a un combat à mener pour prendre possession de ce pays. Et si tu as véritablement donné ta vie à Jésus, eh bien, si c'est le cas pour toi, les combats que tu affrontes sont inévitables pour prendre possession du pays, pour prendre possession de ton héritage. Et je vais te dire les conditions spirituelles pour bien affronter ce pays-là. Et d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui vais le dire. On va suivre tout simplement Josué chapitre 3. Mais si tu te bats comme pour battre de l'air, à droite, à gauche, si tu te tues sans direction, tu ne sais pas où tu vas. Et je crains que tu n'es pas en train de combattre le bon combat spirituel. Si tu as donné à Jésus ta vie, tu es appelé à conquérir le pays. Tu es appelé à passer par les eaux tumultueuses du Jourdain, mais grâce à la main puissante de Dieu. Et on va le voir dans un instant. Tu es appelé à prendre possession de ton héritage. Tu es appelé à faire mourir la chair qui veut prendre le dessus sur toi. Tu es appelé à conquérir le pays. Et la première chose que tu dois savoir dans cette conquête, c'est que même si, quand on regarde le texte de Josué, je suis content pour tous ceux qui méditent ce texte parce que je sais qu'ils suivent bien tout ce que je suis en train de partager. Et j'encourage tous ceux qui n'ont pas encore fait ce choix. Nous sommes à la méditation, n'est-ce pas? Tu as encore le temps, tu as encore le temps. Mais si, même si on voit que Josué va faire un rôle important, on voit bien qu'il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu, mais que c'est l'Éternel qui combat pour lui. C'est l'Éternel qui leur donne le pays. C'est l'Éternel qui accomplit ses promesses. C'est l'Éternel qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Hein, moi, je suis impressionné par, c'est Josué chapitre 5, par cette scène où Josué dit, mais de qui s'agit-il et tout, et Josué se protège. Mais Josué n'est-il pas un chef de guerre? Et pourtant, il se prosterne devant le chef de guerre de l'Éternel. Josué a compris qui il était. Hein. Il ne prend pas la place de quiconque. Amen. Donc, c'est l'Éternel qui sème la panique parmi l'ennemi. Ça, c'est merveilleux aussi. Hein. Là, on a regardé l'histoire Jéricho. Là, on a regardé l'histoire Haïm, même si ça avait mal commencé au début. Là, on a regardé ça qui fait, et puis Gabaon aussi. C'est l'Éternel qui a metté pagaille. C'est l'Éternel qui a fait peuple à avancer. Et tout cela à une seule condition. La foi et l'obéissance d'Israël. Et j'aimerais juste détailler avec toi ces différentes choses. La façon dont Dieu fait entrer le peuple dans le pays promis, de le faire passer la frontière du Jourdain, c'est par la fidélité et l'obéissance d'Israël. Condition indispensable. Alors, lorsque l'on commence à lire ce texte, on va le lire, Josué chapitre 3. On peut le lire, Josué chapitre 3. Et je te demande vraiment que tu puisses laisser la Bible ouverte. Josué chapitre 3. Je lis dans la version seconde. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Il s'agit du Jourdain. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance de 2000 coudées, c'est-à-dire 1 kilomètre. Ne l'approchez pas. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, d'autres versions diront purifiez-vous, d'autres versions diront consacrez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il donnera cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'Alliance de l'Éternel de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Ce qu'on voit dans le chapitre 4. Et dès que les sacrificateurs portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront à un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux, ça c'est une explication, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, d'autres versions disent un mur, une digue, à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées, le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Seigneur, ta parole est précieuse pour nous et ta parole est vivante. Et nous avons besoin de nous nourrir de cette parole. Nous prions que cette nourriture puisse faire de bien à nos âmes parce que besoin de vivre le repos dès maintenant. Alléluia. Amen. Dirige-nous, Seigneur. Première chose que je vois dans ce texte qui m'a interpellé, alors je vais prendre quelques éléments comme ça. Au verset 2, il est parlé de 3 jours. Le peuple est devant le Jourdain. Et derrière, il y a le pays promis. Comprenez par là que toute l'histoire d'Israël est concentrée là, puisque Yoté dit, depuis Abraham, et puis ils ont passé du temps sous l'esclavage. Et on aura toujours parlé de ce pays promis. Et ils sont là, à ce moment fatidique, à ce moment important. Et il est dit ici que le peuple a 3 jours pour se préparer. 3 jours devant des eaux en furie, permettez-moi cette expression en reprenant les aides de la foi. Et des eaux tumultueuses, ce n'est pas en Guéguila, ce n'est pas... je ne sais plus comment on appelle ça, à Saint-Joseph, le guet de la forêt, voilà. Ce n'est pas un guet pour passer la voiture. Non, ce sont des eaux en furie parce qu'il, comment dire, il y avait, c'est la période de la moisson, dit la parole de Dieu, et à cette période-là, en avril, vraisemblablement, il y avait les fontes des neiges et il y avait toutes les eaux qui se concentraient et l'eau a descendu sérieusement, et malheureusement, on l'a connu il y a quelques semaines. Mais, ça pour vous dire que le peuple est là devant ce moment fatidique et ils ont 3 jours pour se préparer. 3 jours parce que, les chefs parcouraient le camp et certainement c'était les chefs militaires, donc ils faisaient ce qu'on appelle des revues de troupes pour voir si tout était en ordre. 3 jours pendant lesquels le peuple devait se préparer avec des provisions pour entrer dans le pays promis. 3 jours de réflexion, 3 jours de préparation, 3 jours pour tout changer. Dans nos vies, nous avons besoin de prendre le temps avec Dieu. Nous avons couru, nous avons pile d'affaires pour faire, nous avons essayé de régler les problèmes, non. Mais il y a un temps pour prendre 3 jours avec Dieu. Il y a un temps pour se connecter véritablement à Dieu. Il y a un temps pour entendre ce que Dieu a à nous dire sur nos vies. J'aimerais te dire, regarde l'état de ta vie. Est-ce que spirituellement, tu roules à vide depuis un peu trop longtemps? Est-ce que tu as ce qu'il te faut pour avancer? Je vous ai dit, les chefs préparaient le camp et le peuple, lui, il préparait des provisions. Ne sachant pas ce qu'il allait faire, Dieu allait faire. C'est la bonté météo. Trois jours pour faire le point sur toi. Peut-être que le Seigneur t'invite dans les prochains jours à prendre un temps avec Dieu. Je ne sais pas si c'est 3 jours. Je ne sais pas si c'est 1 jour. Je ne sais pas si c'est peut-être une matinée que tu as besoin de prendre. J'aimerais t'inviter à le faire. Première chose que j'aimerais te dire. Deuxième chose, il est parlé ici du coffre de l'Alliance, verset 3, et des prêtres lévites. Les chefs des peuples invitent, regardez bien, à ne pas quitter des yeux l'arche. Gardez bien ça et qu'a fait, vous autres savez ça et qu'a fait. Comme un bébé, vous savez, quand on prépare le biberon, quand le bébé a compris que le biberon s'est mangé, le bébé ne laisse pas le biberon de ses yeux. Il a suivi tout de côté. C'est pas vrai? Eh bien, ici, voilà comment, dans quelle attitude devait se trouver le peuple de l'Alliance devant ce coffre. Il fallait observer. Mais quel est le sens de ce coffre, de cette arche de l'Alliance? C'est le signe de l'Alliance entre Dieu et Israël. Le signe, l'arche de l'Alliance a été fabriquée selon le plan que Dieu avait donné d'avance. Et à l'intérieur, il y avait les tables de la loi dans lesquelles étaient inscrits les 10 commandements. Il y avait aussi, comment dire, du bois d'acacia qui était recouvert d'or et tout ça devait être construit dans le tabernacle tant que le peuple était dans le désert et puis après bon, le peuple va se retrouver dans le temple de Jérusalem quand ça sera construit. Mais en Josué, on n'est pas encore à cette étape. Et le peuple était orné, on sait, de deux anges, n'est-ce pas, des chérubins protecteurs, et ils étaient posés sur le propitiatoire. Et tout ça était considéré comme étant le trône, comme la résidence de Yahweh sur terre. C'était le symbole de la présence de Dieu sur terre. Et il ne fallait pas quitter des yeux la présence de Dieu. Gardez ça et café. Sauf qu'à préparer quoi d'autre ? Gardez ça et café. Il ne fallait pas la quitter des yeux. J'aimerais te dire, es-tu attentif à ce que Dieu pense de ta vie? Quel regard as-tu sur la vision, sur la volonté de Dieu sur ta vie? Es-tu attentif au fait que parfois tu n'es plus au bénéfice de cette présence-là? Et cela depuis trop longtemps, à cause peut-être d'une amertume qui est sur ton cœur, à cause d'un péché que tu as laissé, je dirais, que tu ne veux pas quitter, à cause, je dirais, de tout ce qui est venu se mettre sur ta vie. Et puis finalement, tu n'es plus attentif au mouvement de Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu, sympathie, ou là toujours. Tu es attentif au mouvement du Saint-Esprit. Est-ce que ton cœur vibre au mouvement du Saint-Esprit? Parfois, on veut tellement de choses et puis on voit que ça ne va pas et puis on redouble d'efforts. Mais es-tu attentif au mouvement du Saint-Esprit? Autre chose. Quand je regarde un peu plus loin dans ce texte-là, il est dit, vous verrez donc les prêtres lévites emporter le cœur, vous quitterez les lieux où vous êtes installés et vous me suivrez. Dans d'autres versions, il dit partir du lieu où ils étaient. Ils devaient être prêts à quitter le lieu où ils étaient installés. Et la vie avec Dieu, c'est ça. Il y a quelques semaines de ça, j'ai partagé autour de ce texte qui disait que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour poser sa tête. Une manière de nous dire qu'il y a une forme de précarité dans la vie chrétienne, mais cette précarité, il est là pour simplement nous apprendre à dépendre de Dieu parce que nous avons toute notre richesse en Christ. Mais la richesse, ce n'est pas je contrôle tout, je sais tout, je connais tout. Non. La richesse, c'est je dépends de Dieu. Et peut-être que le Seigneur te dit aujourd'hui que tu dois partir de l'endroit où tu es. La vie avec Dieu commence avec une rupture avec le passé. Saisir l'héritage qu'il a prévu avec nous, nous demande un déplacement, sortir de l'endroit où nous sommes. Amen. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, et ça, je veux dire, ce n'est pas juste une image que j'ai en tête, mais c'est ce que nous avons chanté, c'est la manière dont aussi Nicolas a entamé ce culte. Regardez ce qu'il est dit ici. Verset 4. Vous maintiendrez entre vous et l'arche de l'Alliance une distance de combien? Un kilomètre. 2000 coudées. Alors peut-être Bélène ne pas savoir qui ça qui est en coudée. Mais il y a des versions qui nous disent clairement un kilomètre. Si on devait faire une sortie, je pense qu'on va bientôt la faire, je ne sais pas, hein, avec l'association dans toujours. Si on devait faire une marche, n'est-ce pas? Par exemple, sur la caravelle. Et puis, je ne sais pas, on demande aux anciens, à Nicolas, à Jean-François, de partir un kilomètre avant. Est-ce que vous pouvez faire marche là ensemble? Non, ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est assez bizarre de suivre quelqu'un à un kilomètre de distance. Et attention, pour si nous pas bien pour Nicolas, n'approchez pas. Pas approcher. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? La Bible nous dit ici parce que Dieu est saint. Saint, saint. Nous l'avons chanté. Et ce n'est pas une mise en scène ici. Ce n'est pas le folklore juif ici. Non, pas du tout. Cette sainteté, la sainteté de Dieu n'est pas un jeu. On ne rigole pas avec ça. Dieu est en train d'orienter son peuple, mais il veut rappeler à son à rigoler et puis ça. Vous ne pouvez pas vous mettre dans ma poche. Non, pas du tout. Moi, je vais vous diriger. Moi, je vais vous orienter. Mais pas oublier, vous êtes des simples créatures et vous êtes mon peuple, mais attention. Et ça fait trop longtemps que tu joues avec Dieu, trop longtemps que tu méprises la sainteté de Dieu. Dieu te dit, fais la distance avec moi. C'est-à-dire, arrête de mélanger ta volonté avec ma volonté. Dieu te dit, je suis saint, saint, saint. Alors, vis entièrement avec moi. Arrête de mélanger. Et regardez bien que c'est la condition sine qua non, la fin du verset 4. Pour qui ça? Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter. Si tu n'as pas conscience de la sainteté de Dieu, si ta vie ne reflète pas la sainteté de Dieu, ou pas qu'elle sache où tu vas aller. Hein? Si tu souhaites savoir quel chemin prendre dans ta vie, quel chemin Dieu veut pour toi, commence par la sainteté. Il y a un texte très clair qui dit, hein, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. 1 Colossiens 4, verset 3. Commence par la sainteté. Commence par la sainteté dans tes relations avec tes collègues. Commence par la sainteté dans tes relations à l'église. Commence par la sainteté avant de chercher, mais qu'est-ce que je dois faire? Commence par la sainteté quand personne ne te voit aussi. Et regardez quel chemin, la fin du verset 4. Un chemin, qui genre de chemin ça? La fin du verset 4. Un chemin, on ne connaît pas. Un chemin que vous n'avez jamais fait. Vous n'êtes pas à connaître, effectivement. Qui connaît le fait de traverser le Jourdain? Il y avait le souvenir. Et en plus, ce n'était pas la même génération, le souvenir de ce qui s'était fait dans la mer des roseaux, dans la mer rouge, comme on dit, n'est-ce pas? Mais là, c'est une nouvelle génération. Chiméa, moi, quelques épisodes passés, je ne sais pas qu'on est lié. Vous ne le connaissez pas. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est l'image que je disais. Ce n'est pas juste prendre la pétrolette et puis aller au Brésil. Hein? C'est un chemin nouveau ici qui est là. Un chemin que personne ne connaît. Un chemin que personne n'est jamais passé par là. Personne n'a pas dit, bon, ma famille, tu es moins de droit, il doit arrêter. Personne n'a jamais dit ça. C'est quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une rupture qui est faite ici. Ce n'est pas un chemin que nous connaissons. Et Dieu nous appelle à faire des renoncements, à mourir à nous-mêmes, à passer par les eaux du baptême. C'est bien ça le sens des eaux du baptême. Mourir à soi, renaître en Christ. Et Dieu nous va nous ouvrir vers de nouveaux combats. Il savait qu'il fallait affronter. Peut-être qu'ils avaient peur. Mais c'était un nouveau chemin, de nouveaux combats. Et il y avait des nouvelles promesses à accomplir. Il y avait des miracles que Dieu voulait opérer aussi. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Je vous dis. Que le Seigneur nous aide à être prêts pour ces nouveaux chemins qu'il veut pour nous. Que le Seigneur nous aide à avoir le cœur et à avoir faim des nouveaux chemins qu'il veut pour nous. Le verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Purifiez-vous. Consacrez-vous, sanctifiez-vous. Vous savez, quand il est dit cela ici, on est dans l'Ancien Testament, il est parlé ici d'ablution, il est parlé de bénéfication, il est parlé de lavage, j'allais dire lavement, mais ce n'est pas lavement, hein. D'abstention aussi de relations sexuelles. Enfin, il fallait se mettre propre. C'était ça le sens. C'était ça le sens pour pouvoir, se préparer. Et dans d'autres textes, on voit qu'il y avait la nécessité de se préparer, et c'est pour ça qu'on s'est préparé. C'est-à-dire que c'est des signes extérieurs qui montraient ce qui se passait à l'intérieur. Des signes extérieurs qui montraient ce qui se passait à l'extérieur. Par signe de respect de la sainteté de Dieu. parce qu'on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. Et il était nécessaire que, les Israélites commencent à laisser Dieu travailler en eux pour qu'ils puissent voir ce que Dieu pouvait faire pour eux. Est-ce que ça te casse? Il était nécessaire que Dieu, que les Israélites commencent à laisser Dieu travailler en eux avant de pouvoir voir ce que Dieu pouvait faire pour eux. Et j'aimerais te dire que nous avons besoin de marques extérieures. Oui, nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est vrai. Oui, nous sommes le peuple Nouveau Testament, d'accord. Nous avons besoin aussi de marques. Je ne vais pas vous dire de venir, de vous laver, non. Mais, par contre, nous avons besoin de passer par les eaux du baptême, par exemple, c'est vrai, mais nous avons besoin peut-être des fois de nous reconsacrer à Dieu. Et peut-être qu'il faut le signaler de façon claire, physique, parce que le peuple de Dieu qui nous entoure a besoin de le savoir pour prier pour nous, pour cette nouvelle orientation, direction que nous voulons prendre. Pourquoi? Parce que lorsque je choisis physiquement d'engager aussi, je mets mon corps en relation avec mon être intérieur. Ce que je veux dire par là, mes chers frères et sœurs, c'est que la vie chrétienne, c'est pas je suis dans mon coin, je fais mes petites affaires et puis j'avance avec Dieu. Mais souvent, tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Tu as besoin aussi de te prononcer dans le préfère d'ici ma grève. C'est pas j'espère qu'à ton café. Mais nous besoin dit clairement, j'avance avec Dieu. Et dans ma propre expérience, il y a eu des marqueurs comme ça, j'avais besoin de me lever. Moi, je m'étais levé aussi. Hein? Mais je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a poussé à me lever. Il y a des marqueurs physiques. Amen. Le verset 7, maintenant, continuons. Verset 7 nous dit ici, verset 6 déjà, les prêtres de l'Éternel, avec l'arche de l'Alliance, prennent la tête. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu, c'est Dieu lui-même qui mène tout, qui dirige tout. Et dans la volonté de Dieu, verset 7, ici, il dit, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer. Je te rendrai grand aux yeux des autres. » Ok, ouais, qui ça m'a les fait et puis où? Comment Josué arrive à avoir la reconnaissance des autres, de ceux qui sont autour de lui? C'est quand il commence à obéir à Dieu. Et Dieu va l'élever. Quand il commence à obéir à Dieu, Dieu commence à l'élever. Quand tu commences à obéir à Dieu, quand tu commences à honorer Dieu, à mettre ta vie en règle, les autres commencent à tourner les regards vers toi et tu deviens un modèle, tu deviens une référence, quelqu'un qu'on peut écouter parce qu'il n'y a aucun ouais clairement que c'est obéir mon Dieu qui est intéressant. Verset 8 maintenant. Il est dit ici, maintenant, il y a une question. Pourquoi les prêtres au verset 8 devaient... Ouais, c'est la question que je voulais vous poser, justement. Pourquoi les prêtres s'arrêtent? Pourquoi Dieu demande aux prêtres de s'arrêter alors qu'ils sont au bord du Jourdain? Il y a une réaction, il faudrait regarder s'il y a un problème, Nicolas. Pourquoi les prêtres s'arrêtent? Est-ce que vous avez une petite idée? Hein? Alors, de toute façon, ils étaient à un kilomètre, donc ils ne pouvaient pas. Mais ici, vous savez, même si ce sont des prêtres qui portent l'arche de l'Alliance, c'est Dieu qui est là. Ce sont les éternels qui sont là. Il faut même oublier les prêtres parce que c'est Dieu qui est là. Et ils vont s'arrêter ici pour que nous puissions voir que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Pour que le peuple puisse voir que c'est Dieu qui est à l'œuvre, et puis il n'y a pas qu'à lui faire dire « Arche-là, un petit bateau pour passer ». Non, pas ça. Est-ce que vous m'avez suivi? Mais c'est Dieu qui, de façon toute miraculeuse, accomplit cette œuvre pour faire un mur d'eau en amont et pour faire une eau qui s'écoule en aval. C'est la puissance de Dieu ici qui est à l'œuvre et il est nécessaire de pouvoir s'arrêter et voir la puissance de Dieu à l'œuvre, telle qu'elle a été aussi à la croix, où la puissance de Dieu dans la nouvelle alliance nous a délivrés de la culpabilité du péché. À la croix, nous savons que nous sommes pardonnés, c'est la victoire que Christ a remportée à la croix. Et il est important pour nous, à un moment donné, de s'arrêter et de regarder ça. Si cette nouvelle extraordinaire ne te fait plus ni chaud ni froid, tu n'es plus en train de suivre. Si tu ne te rends pas compte que, à cause de la sainteté de Dieu, tu étais séparé de Dieu et que l'œuvre de la croix est une œuvre merveilleuse dans laquelle tu retrouves, non seulement tu retrouves, mais tu trouves qui véritablement tu es parce que tu as été délivré de la culpabilité du péché qui t'emmenait directement en enfer. Si ça ne te touche pas, tu n'es plus dans la foi. Et ce panorama extraordinaire de la puissance de Dieu, c'est aussi la délivrance des conséquences de la loi. La loi nous condamnait, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais cette manifestation extraordinaire, je ne sais pas si vous voyez, après on a eu quelques films qui nous ont montré vraiment ces eaux tumultueuses qui ont été bloquées par Dieu, la mer Rouge, mais aussi ici le Jourdain, mais c'est aussi la victoire sur Satan, sur les démons, et elles ont été totalement dépouillées à la croix, tout ça pour te dire que si Satan te perturbe dans tes nuits, dans tes jours, il est illégal si tu es un enfant de Dieu. Il n'a pas sa place. Et remarquez bien, et je terminerai ainsi, que le peuple, il passe l'épice. Tout ça pour nous montrer que c'est l'œuvre de Dieu. À nous de remplir les conditions spirituelles, mais c'est Dieu qui mène le combat. C'est Dieu qui ouvre. Tout ce qu'on va voir après, c'est Dieu qui ouvre la voie. Amen. Amen. J'aimerais juste prier avec vous. Merci de nous avoir interpellés par ta parole ce matin. Seigneur, tu veux nous rappeler les éléments essentiels de notre foi en toi. Merci parce que la parole de Dieu est une. Et oui, nous voulons être comme des détectives chercher Jésus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que tu es là. Tu es là et tout dans l'Ancien Testament nous rappelle que tu devais venir et nous annonce ta venue. Alléluia. Seigneur, je te prie que nous puissions prendre en compte toutes ces conditions spirituelles que nous avons évoquées ce matin, afin de prendre le temps du recul dans ces trois jours de réflexion, ce temps mis à part. Nous ne voulons pas vivre nos vies jour après jour sans remettre les compteurs à zéro avec toi. Parce que nous reconnaissons que cette distance d'un kilomètre qui nous semble extraordinaire nous rappelle que tu es un Dieu saint, saint, saint. Et ce Dieu saint, c'est lui qui fait rentrer le peuple dans la promesse. S'il y a des combats à mener, c'est toi qui combats, Seigneur. Notre plus grand combat, c'est notre obéissance. C'est te reconnaître dans nos vies, c'est-à-dire briser les idées. Briser tout ce qu'il y a dans le. Et je te prie pour mon frère, pour ma soeur, que nous soyons tous dans cette dynamique. Je crois à la puissance de l'Esprit Saint qui parle à tous les cœurs sincères qui veulent s'ouvrir à lui. Seigneur, fais ce travail en nous. Fais ce travail en nous. Et rends-nous le peuple, fais de nous le peuple qui te glorifie. Sanctifie-nous, ô Seigneur mon Dieu. Donne-nous de nous consacrer à toi. Donne-nous aussi de physiquement de dire hey, maintenant ça suffit. De le dire devant le peuple de Dieu aussi. Maintenant, j'arrête. Maintenant, je te veux toi tout entier. Tu es Dieu. Louange à toi. Et si tu es chez toi, tu veux juste lever la main. Si tu es ici dans cette salle, tu veux juste lever la main. Parce que tu veux être mené de gloire en gloire. Dieu t'a donné la possibilité de rentrer dans le Saint des Saints. Pourquoi tu méprises cela? Passe par le sang de Jésus. Passe par le Jourdain, la mort à soi. Et viens à Jésus. Viens à Jésus. Alléluia. Toi qui as levé ta main, toi qui manifeste ce geste physique, nous voulons prier pour toi. Alléluia. Seigneur, accorde à ton serviteur, à ta servante, accorde à cette personne, à ce frère, à cette sœur, accorde à cet homme, à cette femme, Seigneur mon Dieu, de découvrir la nouvelle naissance, de découvrir la beauté de ton salut en passant par la repentance et la transformation. Louange et gloire au nom de Jésus.